Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Daniel, au début de l'année 2020, la Covid-19 touchait l'Europe et certains prédisaient, pour s'en réjouir, que cette crise majeure allait provoquer l'éclatement de l'Union européenne. Alors, qu'en a-t-il été ?
Alors, il est vrai que le risque d'éclatement n'était pas mince, car face à la crise, les États ont réagi en ordre dispersé. À l'intérieur, en mars 2020, certains ont opté pour un confinement à des dates variables, alors l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France, la Pologne. D'autres s'en sont tenus à des restrictions plus ou moins fortes, Allemagne, Suède, Finlande, Hongrie, Irlande. Aux frontières des pays, même diversité, certains pays ont fermé leurs frontières, Espagne, Portugal, Belgique, Suède, Pologne, Autriche. D'autres ont renforcé plus ou moins intensément les contrôles, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, à un degré moins de la France. Cette hétérogénéité des politiques s'est retrouvée en novembre 2020 lors du rebond de la pandémie. Ce patchwork de situation a très tôt nourri le procès anti-Union instruit par les europhobes de tout poil. Ainsi, en France, fin février 2020, lors de la matinale d'une chaîne de radio publique, une dirigeante candidate à la fonction suprême a déclaré, j'ouvre les guillemets, « J'ai été étonné de voir que l'Union européenne, qui n'a pas dit un mot dans cette affaire, donc on ne sait pas à quoi elle sert, le seul propos qu'elle a tenu, c'est de condamner ceux qui envisageraient de maîtriser des frontières, y compris de manière temporaire. Ça prouve d'ailleurs la force de l'idéologie, de la religion du sans-frontiérisme des dirigeants de l'Union européenne. » Je ferme les guillemets.
Alors oui, mais sur quoi se fonde ce procès en inaction de l'Union européenne ?
Eh bien, à vrai dire, Yann, sur rien. Reprenons les deux accusations. L'UE silencieuse et inactive en février-mars 2020. Quelques exemples de mesures montrent que dans la lutte contre le coronavirus, l'UE a été active dès les premiers jours de l'épidémie en Europe. Par exemple, le 28 janvier, annonce de l'activation du mécanisme européen de protection civile pour le rapatriement des citoyens européens de Chine. 31 janvier, déblocage de 10 millions d'euros pour la recherche sur le virus dans le cadre du programme de recherche européen Horizon 2020. 10 février, appel à un renforcement de la coopération et de la coordination internationale. 24 février, annonce du déblocage d'un fonds spécial de plus de 230 millions d'euros, majoritairement alloué au soutien à l'Organisation mondiale pour la santé, à la recherche médicale, à la surveillance épidémiologique en Afrique. Le 16 mars, soutien financier à l'entreprise allemande CureVac, en pointe dans la recherche d'un vaccin et à ce titre convoité par les autorités américaines. Le 19 mars, alors que le nombre de cas en Europe atteint 83 000, l'UE crée une réserve commune de matériel médical, respirateurs, masques, à hauteur de plus de 50 millions d'euros. Deuxième accusation, refus idéologique des dirigeants de l'Union de fermer les frontières. Alors pour rappel, le code Schengen autorise la réintroduction des contrôles aux frontières des États membres pour une période limitée en cas de menace sérieuse pour la sécurité intérieure ou pour l'ordre public. La décision relève de la compétence des États et la Commission, si elle peut émettre un avis, ne peut s'y opposer. Sur la frontière extérieure de l'Union, le 17 mars, des restrictions à l'entrée dans l'Union depuis les pays tiers ont été instaurées pour les voyages non essentiels, et ce pour une période de 30 jours. Alors on le voit, les assertions mensongères ont été relevées par toute la presse, et elles mettent surtout en relief l'acharnement quasi pavlovien de l'extrême droite à faire de l'Union européenne un bouc émissaire.
Mais alors comment expliquer que ce procès est prise sur une partie de l'opinion ?
Ah, il y a sans doute plusieurs explications, parmi lesquelles deux me paraissent l'emporter. D'une part, l'ignorance des mesures prises à Bruxelles, liées aux difficultés traditionnelles de la communication de l'UE en termes de réactivité, de relais dans l'opinion. Qui a su que fin janvier, l'UE a envoyé 12 tonnes d'équipements de protection en Chine ? Ces difficultés bruxelloises ont été exacerbées dans la tempête émotionnelle de la crise par la priorité donnée dans tous les pays à l'information nationale et aux témoignages humains, et cela on peut le comprendre. D'autre part, et c'est la deuxième explication, l'attente illusoire d'une action sanitaire européenne visible et forte. Illusoire pourquoi ? Parce que l'Union n'est pas un État et qu'elle n'intervient pas concrètement sur le terrain. Par ailleurs, en matière sanitaire, l'UE ne possède qu'une compétence d'appui. Hein. Je donne un article, l'article du traité. L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. On le voit, le rôle premier incombe aux États.
Alors, en somme, la Covid-19 a fait éclater l'Union.
Ah, ce serait le cas, Yann, si le principe fondateur de la solidarité avait été rejeté. Alors certes, la solidarité a souffert. Par exemple, lorsque la France et l'Allemagne ont décidé début mars de bloquer les exportations d'équipements de protection dont l'Italie manquait cruellement. Mais, rappelés à leur devoir, après 9 jours de blocage, les deux pays ont levé l'interdiction d'exportation. Par ailleurs, des initiatives communautaires et nationales ont réaffirmé le principe de solidarité. Le 13 mars, l'UE a lancé une procédure conjointe accélérée pour la passation de marchés pour des équipements et des médicaments soutenus par 25 pays. Fin mars, outre l'envoi de matériel en Italie et en Espagne, 6 lenders allemands, en réponse à l'appel à la solidarité de la présidente de la Commission, ont accueilli dans leurs hôpitaux des patients français et italiens. Enfin, en dépit des restrictions nationales à la libre circulation, le marché intérieur a continué à fonctionner pour les marchandises, notamment périssables, et pour le matériel médical. Alors, active dans la lutte contre la Covid, l'Union a dans le même temps préparé l'après-Covid, ce que nous verrons prochainement.